vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Pauline Le Duc,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il est peut-être le plus américain des écrivains français. Il place d'ailleurs les romans de Faulkner, Kerouac, Ross ou Bret Easton Ellis sur les rayons de sa bibliothèque idéale. Depuis 37 de le matin, le roman qu'il a fait connaître au grand public et qui a été adapté au cinéma par Benex, Philippe Djian fixe un rendez-vous annuel ou presque à des lecteurs assidus à son écriture douce amère. Le voici de retour avec une histoire d'amour qui met aux prises un écrivain et une femme commando au sein des services, ce qui est pour le moins original. Je dis bien aux prises, car le titre, c'est écrit sur la quatrième de couverture, appartient au champ lexical du catch. Double Nelson, le nouveau roman de Philippe Djian, est paru chez Flammarion, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Philippe Djian.
Bonjour.
Est-ce que l'amour est un sport de combat ?
De combat, je ne suis pas sûr, et j'espère que non. C'est plutôt, moi, c'est pour ça que j'ai employé un terme qui fait penser et qui se rapporte au catch. C'est-à-dire que j'imaginais plutôt ça comme un ballet. Une espèce de ballet un petit peu musclé, mais pas plus que ça. C'est pas un terme de boxe. C'est pas quelque chose où la personne va être par terre en sang et KO. Non, c'est simplement, on essaye de dire à l'adversaire, voilà, on te tient, et comme tu peux plus rien faire, la seule chose que tu peux dire, c'est arrête.
Alors, je suis pas un spécialiste, mais le catch, c'est pas seulement un sport, c'est aussi un spectacle, hein, c'est aussi une chorégraphie, pour reprendre ce que vous venez de dire, un ballet, c'est aussi un scénario. Il y a des connivences, hein, au catch, entre les combattants, qui sont aussi, en quelque sorte, des acteurs, et qui, souvent, connaissent un peu le résultat final. Quand vous avez commencé votre récit, est-ce que vous aussi, vous saviez jusqu'où l'histoire allait aller?
Non, parce qu'en fait, les titres en général, je les trouve qu'après, à la fin. C'est la cerise que je mets sur le gâteau pour me faire plaisir. Donc, j'ai pas écrit ce livre en pensant à cette prise particulière. C'est simplement qu'en y réfléchissant, c'est vrai que cette idée un peu bête et un peu passe-partout, qui est l'amour, c'est un sport de combat, où c'est les gens qui luttent les uns contre les autres. C'est surtout une prise de pouvoir, hein, je pense. C'est-à-dire que même quand ça se passe bien dans un couple, il y a toujours, et des deux côtés, hein, c'est pas l'un qui veut forcément... J'ai l'impression que les deux cherchent à prendre un pouvoir qui peut être un soft power, mais pas forcément. Mais c'est quand même moi qui ai un petit peu la voix la plus importante.
Mais c'est valable pour l'ensemble des relations humaines ou seulement pour les relations amoureuses?
Disons qu'en gros, évidemment que vous allez me trouver des exemples aux extrêmes. C'est jamais aux extrêmes, ça se passe jamais comme ça. Mais j'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça, mais c'est même un jeu, c'est même agréable. Si c'est simplement s'embrasser du matin au soir sans qu'il se passe rien, bon, c'est bien qu'il y ait un moment quand même. Et j'aimais bien parce que la lutte, ça m'a toujours semblé être un sport assez élégant, pratiqué par des gens qui voulaient pas forcément être violents. Mais il y a une espèce de beauté dans la lutte. Le catch, c'est un peu plus grossier et un peu plus vulgaire, mais la lutte, j'aimais bien cette idée-là.
Alors, il y a un écrivain américain, John Irving, qui est non seulement un lutteur, mais qui place aussi la lutte souvent au centre de ses romans. Est-ce que l'ombre de Irving a plané aussi sur votre écriture?
Non. Mais j'ai beaucoup aimé Irving au début. Maintenant, il y a d'autres auteurs qui m'intéressent un peu plus. J'ai été un fou du monde selon Garp. J'ai adoré ça. J'en ai adoré d'autres après. Mais comme John Updike, par exemple. Tout le monde dit « Ah, Djian, c'est le nouveau John Updike parce qu'il s'intéresse au couple et tout ça. » J'ai adoré John Updike, mais je commence à plus être le jeune écrivain que j'étais. Je suis un vieil jeune écrivain, je sais plus. Mais j'ai 72 ans, donc j'ai évolué un tout petit peu. Et je me dis que c'est des auteurs que j'aime beaucoup et qui restent plus dans mon cœur que dans ma bibliothèque.
Alors, le personnage masculin principal du roman, il s'appelle Luc et il est écrivain, justement. Alors, c'est pas un métier complètement ordinaire quand même, écrivain. On va y revenir. Est-ce que pour vous, un écrivain est un personnage comme les autres?
C'est surtout certainement le genre de personnage que je connais le mieux. Je parle un tout petit peu en connaissance de cause, donc je connais un peu, je sais ce que c'est que de, entre guillemets, souffrir. On souffre pas, mais des fois, c'est difficile d'écrire. Des fois, et c'est pour ça que j'ai pris un malin plaisir en écrivant Double Nelson, en ne disant pas du tout quel genre de livre il écrit. Non. On ne sait pas si c'est un poète, un philosophe, un politique. Non, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est dur. Et qu'avec son roman, des fois, on n'a pas envie de s'asseoir devant son bureau parce qu'on n'a pas envie d'écrire. Moi, j'ai pas envie d'écrire tous les jours. Donc il y a des moments où on s'assoit quand même et puis on dit ouais. Donc je connais un petit peu ce personnage.
Oui, c'est vrai qu'il se plaint quand même beaucoup, hein, cet écrivain.
Moi, il se plaint beaucoup. Moi, j'aime bien son attitude de pas dire ah là, je suis un écrivain. C'est comme si Dieu avait traversé de son doigt les nuages et m'est désigné comme quelqu'un qui avait la grâce. Non, C'est un vrai métier, c'est un métier d'artisan, je trouve, l'écriture. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout la langue. Et la langue, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme vous avez un menuisier, mais vous avez aussi après, la taille au-dessus, c'est l'ébéniste. Quelqu'un qui vraiment polit son histoire à chaque fois, son affaire. Donc, je connais bien le truc de l'écrivain. Je sais pourquoi il souffre, je sais pourquoi il a mal, je sais ce qu'il cherche, et je sais d'ailleurs pourquoi il met en place cette espèce d'histoire complètement dingue qui croit que la destruction créatrice, c'est un truc important. Il va falloir qu'il rencontre Edith pour s'en rendre compte que c'était une connerie, parce que ça marche pas. Ouais. Mais ça a marché avant.
Oui, et c'est vrai que l'éditrice de votre personnage, qui s'appelle Caroline, est habituée justement au fonctionnement de cet écrivain. Elle sait qu'il fonctionne toujours à l'épreuve de force, qu'il a donc besoin de conflits, qu'il a besoin de ruptures amoureuses, qu'il a besoin d'avoir mal.
Ouais. En fait, il fait du mal aux autres en même temps, c'est ça qui est terrible. C'est
à lui et aux autres.
Bah oui, mais parce qu'il a pensé que c'était comme ça, qu'il pouvait pas écrire dans le confort, qu'il fallait qu'à un moment, quand une histoire démarrait bien, et en général, toutes les histoires qu'il raconte de ses rencontres avec ses fans, ça démarre bien, sauf qu'il trouve, lui, le moyen où il dit, non, bah, je mets un peu la pagaille, et on va se séparer, et on va avoir mal, et moi, quand j'ai mal, j'écris. Sauf qu'il pense pas à l'autre qui a encore peut-être plus mal, et lui, c'est facile à faire quand on n'est pas amoureux au point où il est en fait profondément amoureux d'Edith. Et c'est pour ça que ça marche pas avec elle. Parce que il s'est aperçu qu'à un moment, il ne pouvait commencer à travailler que quand elle descendait sur son tapis de course et qu'il entendait le bruit des pas et que lui, il avait les mains au-dessus du clavier et que ça y est, elle a commencé, moi aussi, je peux m'y mettre. Et le jour où il la quitte, d'une manière assez pas très, très élégante...
C'est le mot qu'on puisse dire.
Ben oui, il lui met un post-it sur le truc. Il se rend compte qu'il a les mains au-dessus du clavier et qu'il attend. Il attend sa présence, même s'il a besoin d'être seul et tranquille dans sa chambre. S'il n'y a pas la présence d'Edith, ça ne va plus. Et là, il commence à paniquer un peu. Il y a un truc, peut-être que je me suis un peu précipité, c'est ce qu'il se dit.
Mais est-ce que vous aussi, Philippe Jean, comme Luc, vous avez besoin de tension pour écrire, tension personnelle ou tension dans votre entourage?
Non, non. Je suis même un écrivain qui déteste ou qui n'aime vraiment pas beaucoup la vraie solitude, qui s'accompagne avec le silence. Je suis sourd d'une oreille, donc j'entends pas très bien. Et moi, j'ai toujours apprécié. Je suis marié depuis 50 ans avec la même femme. J'ai des enfants. J'aime bien les entendre de loin. Je sens que la vie, elle est pas loin. Et que je suis dans un milieu, même si sur le moment, quand j'écris, je suis seul, la vie, la vraie vie, est pas loin. Donc, non, c'est... Non, j'ai pas d'angoisse particulière, sinon souvent un espèce de... C'est pas de l'ennui, c'est je sais que ça va être difficile pour pas grand-chose. C'est-à-dire que rester des heures sur une phrase, même si on est satisfait du résultat, on se dit mais c'est pas possible que ça soit si dur à faire. Une phrase, c'est quelques mots, c'est rien, mais on n'y arrive pas, on sent que c'est pas... Enfin, moi, je suis assez sensible à ça, donc je me dis si je suis pas vraiment content de la phrase, je l'écris pas.
Mais une phrase, c'est pas grand-chose, pour reprendre votre expression, Philippe Jean. C'est pas grand-chose une phrase pour un écrivain?
Ça dépend à quel genre d'écrivain vous faites allusion.
Mais pour vous?
Pour moi, oui, parce que je pense que c'est... J'ai toujours dit que mon problème, c'était pas l'écriture de roman, mon problème, c'est la phrase. C'est qu'est-ce qui fait qu'une phrase m'inspire et qu'est-ce qui fait que je me suis assez bien débrouillé pour qu'elle en amène une autre et que la prochaine, elle aussi, fasse le même travail. Donc je trouve que... Mais ça, c'est Stevenson aussi qui disait ce genre de truc. Il disait, si dans un tableau, vous pouvez enlever une partie du tableau, arrêtez, ça veut dire qu'elle servait à rien. Donc si vous n'avez pas la force, avant de publier, d'enlever ce qui ne va pas, votre bouquin, il sera chaotique, il ne va pas tenir droit. Donc je suis, mais c'est en même temps parce que je trouve, alors ça, c'est un truc un peu idiot, mais je trouve que tout a été écrit. Toutes les histoires ont été écrites, plus ou moins.
Mais alors comment on fait pour trouver l'envie de se remettre à la tâche tous les jours?
C'est de se demander, est-ce qu'il y a une manière de regarder des choses que tout le monde voit, mais de les regarder différemment, c'est-à-dire sous un angle différent. Je peux vous regarder comme ça, face à face, mais si je fais un pas de côté, je ne verrai pas la même chose. Et ce qui me permet de faire un pas de côté, c'est la langue, c'est le style. C'est pas l'histoire. L'histoire en elle-même, oui, on les connaît, boum, ça. Voilà. Mais c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Et c'est aussi, mais je vais pas vous couper la parole, mais c'est important de vous dire que je suis aussi un enfant des images, un enfant des séries, surtout, par exemple. Et je pensais avec admiration quand je voyais certaines séries comme Breaking Bad, Six Feet Under, Les Sopranos. Je me disais, mais toutes les grandes questions philosophiques, si vous les regardez bien, elles sont dedans. Mais ça n'empêche pas que l'histoire en elle-même peut être un peu drôle. Donc moi, j'aime bien cette idée que je reste dans la tragicomédie, parce que je pense que nos vies sont tragi-comiques.
Hesitation, extrait du nouvel album de Matthew E. White dans VMDN sur RFI avec Philippe Jean pour son nouveau roman Double Nelson, paru chez Flammarion. Le Double Nelson étant, je le rappelle, le nom d'une prise de catch, à une prise de soumission qui consiste à faire abandonner l'adversaire. Et le minimum pour qu'elle fonctionne, cette prise, Philippe Jean, c'est qu'il faut être deux. Et c'est vrai que souvent, vos livres tournent autour de deux personnages principaux. Alors on sait que pour faire tenir une table, trois pieds suffisent. Est-ce que pour un livre, il faut deux piliers ?
Ça dépend quel livre. Si c'est simplement des personnages qui se promènent sur une plage en allant de droite à gauche et en ayant des grandes pensées, vous pouvez écrire un livre comme ça. Moi, ce que je vous disais, à savoir que je suis plutôt un enfant des séries, je suis habitué à ce qu'on mette les grandes idées dans des situations... Moi, mon idée, c'est de mettre des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires. Parce que c'est comme ça qu'en fait, les personnages, les personnes se révèlent vraiment. Vous savez, pendant la guerre, il n'y avait pas que des résistants et des collabos. Et souvent, c'était l'inverse. C'est-à-dire, ceux qui parlaient fort avant que ça commence, eh ben, on aurait pu penser que c'était eux qui allaient résister, puis pas du tout. C'était les autres qui disaient rien et qui se sont révélés. Et je pense que j'ai besoin de certains éléments en tant qu'écrivain pour faire que mes personnages se révèlent. D'autant que moi, je n'utilise pratiquement jamais un espèce de narrateur extérieur qui comprend tout et qui sait tout. C'est-à-dire que quand je mets, par exemple, des dialogues en place, je pars du principe que dans un dialogue, et quand des gens se parlent, ils peuvent mentir, ne pas comprendre, cacher des choses et tout ça. Donc c'est ça un vrai dialogue. Et c'est là où, dans les interstices, on peut comprendre la personnalité du personnage. Si c'est simplement à plat, comme ça, faire le portrait narrateur extérieur qui se mouille pas trop... Ça m'amuse pas, c'est un travail de scénariste. Moi, je pense qu'il faut, c'est pour ça que je disais que la phrase, je fais attention à chaque phrase, c'est parce que il faut tenir la note. À mon avis, moi, un roman, ça avance comme une mélodie, un petit peu. Et donc, faut pas qu'il y ait de coupure, faut vraiment que ça continue et qu'on avance dans un espèce de faux naturel, mais faut que ça ressemble au naturel. Faut que le dialogue, il soit naturel. Mais prendre, par exemple, le silence pour quelque chose d'important.
Mais c'est vrai que vos dialogues, Philippe Jean, ils sont inscrits vraiment dans le texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouvrir les guillemets, il n'y a pas de tirer. On a vraiment l'impression que le dialogue fait partie du corps du texte, que c'est pas quelque chose qui est à part.
Ben non, mais c'est un petit peu dans ce sens que je travaille depuis le début. Cherchant une mélodie, je suis obligé de mettre tous les ingrédients en même temps. Donc, pourquoi mettre des guillemets C'est pas beau, déjà. J'avais demandé pour haut chez Gallimard qu'ils me mettent surtout pas des guillemets comme des espèces de trucs de sergent-chef ou de je sais pas quoi, mais que ce soit des petits guillemets à l'anglaise que je trouvais beaucoup plus féminin et léger. C'est, en plus, c'était une femme qui était... Alors, ça a été compliqué. On m'a dit, mais non, mais il y a une typo exprès pour la collection blanche, on peut pas changer et tout ça. Mais je me dis, mais pourquoi? Pourquoi le tirer avant de commencer un dialogue? Pourquoi le point d'interrogation? Si j'écris « Où est-il ?», est-ce que j'ai besoin de mettre le point d'interrogation? Il y a l'inversion du sujet, déjà, qui fait office. Mais je me dis, mais mettre un point, c'est encore plus intéressant, parce que c'est pas où est-il, avec la question qu'on attend. Ça peut être où est-il, et on n'attend pas de réponse. Donc, des fois, enlever les points d'exclamation qui renforcent le truc pour, c'est que vous êtes pas, vous avez pas été assez bon.
Ouais.
Il a fallu employer la typo pour faire comprendre, comme l'italique, par exemple. On met de l'italique pour insister. C'est que vous avez pas fait votre boulot.
Donc, le point, oui. On ne peut
le
pas
point,
s'en passer
oui.
du point.
La virgule aussi.
Parce qu'il y en a, il y a des écrivains qui écrivent 100 points. Hein,
oui, on pourrait le faire, 300, mais ça, c'est déjà fait depuis Ulysse.
Voilà,
de
ça ne vous amuse
moi,
pas.
Oui. Ah ben non, ça c'est déjà fait en même temps. Moi, j'essaye de trouver une langue qui correspond au monde dans lequel je vis, qui n'est pas un monde de perfection. On pourrait penser qu'écrire un roman en une seule phrase, on cherche une espèce de perfection. Il n'y a plus besoin de rien. Non, moi je crois qu'il y a besoin de certains trucs, mais pas tous. Et que des fois, employé quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, Bukowski me montrait qu'on pouvait écrire des mots en grosses lettres capitales pour montrer que waouh. Ben, je l'ai fait pendant un an ou deux, puis après j'ai dit non, c'est, si tu trouves pas le moyen de faire passer ça autrement qu'avec tes lettres machin, c'est que t'es pas assez bon. Alors, travaille.
Alors, on a parlé du premier personnage, Luc, hein, cet écrivain, et le deuxième personnage principal, vous avez cité son prénom tout à l'heure, c'est Edith, c'est elle qui donne à Luc une gifle dès le premier paragraphe du livre. On est tout de suite de plein pied dans leur histoire d'amour et de lutte, et leur rencontre que vous racontez à la page suivante se passe aussi sous le signe du combat. Nous sommes à la page 8.
Luc menait de nouveau une vie sans heurts à ce moment-là. Il vivait seul et ne fréquentait pas les sites de rencontres. Il se dégourdissait les jambes dans le jardin lorsque Edith lui était tombée dessus à bras raccourcis comme un diable surgissant de sa boîte. Leur histoire avait ainsi débuté. Certes, ils avaient d'emblée partagé quelques mois passionnés, intensément sexuels et sans nuages, mais les fondations s'étaient bientôt fissurées avant que tout ne s'effondre. Bien entendu, le roman était une fois de plus en berne. On aurait dit une dépouille jetée au fond d'un puits. Il en était malade. D'être à ce point omnubilé par Edith, il aurait dû se méfier depuis le début. Elle avait fondu sur lui à pieds joints et sous le choc l'avait flanqué par terre alors qu'il était arrêté et prêtait l'oreille à un bruit d'hélicoptère qui stationnait au-dessus des bois. Et avant qu'il n'ait eu le temps de dire « ouf », elle était à cheval sur lui et le bâillonnait dans la foulée au moyen de rubans adhésifs. Il avait tâché de la faire basculer, mais elle lui avait envoyé son coude en pleine figure et profité de l'avoir sonné pour lui lier les poignets avec un serflex. Il y repensait parfois avec un sourire attendri. Elle s'était relevée et parlait dans un microphone fixé au revers de son treillis, cependant qu'il grognait, se tortillait sur le sol et cherchait à la déséquilibrer. Mais elle esquivait, lui écrasait la figure sous une semelle crottée de ses Rangers. Comme il ruait malgré tout dans les brancards, elle avait grimacé et lui avait envoyé un méchant crochet au menton. Elle semblait très énervée. Dans son micro, elle les traitait de connards d'une voix sifflante. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle l'avait presque mis KO, mais déjà, il était ensorcelé. Elle lui avait rendu visite le lendemain pour s'excuser. Il s'était plus ou moins entiché d'elle, sur le champ, au premier regard qu'ils avaient échangé. Elle l'avait bien amoché. Il tenait une poche de glace contre sa joue, son œil droit était à demi fermé et il portait une minerve. Il la fit entrer et retourna à son fauteuil sans attendre. Il y avait une chance sur 1 million pour tomber sur une femme qui éliminait toutes les autres. Et il fallait que ça lui arrive. Il s'agissait d'une erreur. Elle en frémissait encore de dépit. Il s'était trompé de maison, de cible, à cause d'un bug. Elle ne pouvait en dire plus. Elle avait abandonné son treillis pour une tenue de mi-saison aux couleurs claires. Elle avait défait ses cheveux. Elle était désolée. « Ça paraît dingue, n'est-ce pas ?» avait-elle ajouté en souriant.
Et ainsi se termine le premier chapitre hein, de votre roman, Philippe Djian. Edith déboule donc au sens propre hein, dans la vie de Luc, et leur histoire d'amour débute par un combat et par une erreur. Comment Edith a-t-elle déboulé dans votre récit à vous? C'est pas banal quand même, une femme commando des forces spéciales.
C'est parce que j'avais venu de lire un article dans Match, dans je sais plus quoi, où il parlait d'une femme qui venait d'être intégrée au groupe des forces spéciales. Et ses camarades disaient, mais elle est 10 fois plus forte que nous, quoi. Pas pour un bras de fer, non, pas forcément pour un bras de fer, mais au niveau du mental. C'était quelqu'un qui tenait, quand il faisait des exercices 40 km de nuit avec un sac chargé sur les épaules dans la boue, c'était celle qui arrivait en premier, pendant que les autres, ils arrivaient complètement défaits. C'est bien qu'on ait lu un petit peu ce passage, parce que je voulais quand même ajouter un tout petit chose sur ce que je vous ai dit au départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le côté ludique de mes histoires. J'aime rire de mes histoires, j'aime m'amuser. Et si ça ne m'empêche pas de parler de choses plus importantes, pourquoi est-ce que je vais m'en priver et puis faire un truc très, très sérieux pour les gens sérieux? Les gens sérieux n'ont pas besoin de moi, de toute façon.
Alors, on est très très loin, quand même, avec ce personnage d'Edith, du personnage de Luc écrivain. C'est vraiment un peu les deux extrémités du prisme. C'est un couple complètement improbable. C'est vrai que ça rajoute aussi à la fois au comique de la situation, mais aussi à la complexité de leur relation amoureuse. Et pourtant, on se dit, mais il y a quand même des couples qui, dans la vraie vie, Philippe Jean, ont l'air d'être très mal assortis, mais qui fonctionnent très bien.
Bah ouais, mais moi, il s'est trouvé que ça m'amusait plus de raconter l'inverse, à savoir des couples qui semblent bien assortis aussi. Elle est assez belle, enfin, moi, je la vois assez belle quand même. Et lui, il n'est pas complètement décati encore, donc ça fonctionne à peu près. Mais c'était en même temps, prendre les extrêmes, ça vous permet d'être un peu plus... Ça ramène un peu le sujet de base, c'est comment ces gens-là vont faire pour vivre ensemble. Si on m'a pas trop mis de différence, ça va être compliqué à comprendre. Alors que si vraiment on a pris les extrêmes, c'est une manière de faire qui est peut-être un petit peu brutale, mais c'est celle qui m'amuse. Mais en prenant les extrêmes, je vais voir comment ça va se passer, en fait.
Alors, brutal, vous venez de le dire, et c'est vrai qu'il décide donc de la plaquer en affichant ce petit post-it sur le miroir de la salle de bain, ce qui, comme vous disiez vous-même tout à l'heure, n'est pas particulièrement élégant. Et elle va débarquer à nouveau dans sa maison à cause de son métier. Elle va lui demander, une fois que la rupture est consommée, de la cacher. Et il va accepter, évidemment. Comment refuser? En plus, elle arrive, elle est blessée. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de refuser. Sauf qu'il va la mettre au grenier. Grenier, c'est-à-dire au rencard?
Ah non, pas du tout, parce que j'ai pris quand même le soin de dire que c'était un petit truc où il habitait quand il était mort, parce que c'est la maison familiale quand même où il habite, et qui a toutes les commodités et tout ça. Non, il l'a pas mis au grenier. Il l'a mis parce qu'ils ont décidé éventuellement de cohabiter, mais ils veulent surtout pas, comme des gens effrayés, retomber dans les mêmes travers. À savoir que si on fait pas attention, ça va recommencer dans 15 jours ou dans un mois, et on va être au même point. Donc, on va séparer la maison en deux, on va mettre même du ruban adhésif par terre pour être sûr de ne pas se rencontrer. Et puis si on s'embrasse, si à un moment la nature fait qu'on arrive à s'embrasser, on ne va pas mettre la langue, par exemple. Parce qu'il y a des émotions, ils ne veulent pas mettre d'émotion. Et ils pensent qu'en laissant tout sans couleur et sans température particulière, ça va bien se passer.
Bon. Et puis on ne va pas évidemment raconter comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'il joue avec le feu, Luc. Vous utilisez d'ailleurs l'expression dans le livre. Et ça vous permet à vous... écrivain que vous êtes, de développer justement tout ce jeu d'ambiguïté entre les deux personnages, avec des moments d'éloignement et des moments de rapprochement. Ouais, on est en permanence comme ça sur la ligne de crête. Et pour entrer dans la psychologie de Luc, vous vous servez beaucoup des dialogues, des conversations que Luc peut avoir avec deux autres personnages, deux personnages secondaires qui sont son père, Georges, qui est médecin, et puis il y a Marc. Marc, c'est le voisin. Alors, pour reprendre un peu la métaphore du catch, Georges, c'est un peu le soigneur qui est sur le ring, et Marc, c'est un peu le sparring partner, l'entraîneur, ouais, on peut dire ça comme ça.
Marc ressemble pas mal à Luc.
Oui.
Ils sont à peu près le même âge, ils ont tous les deux des problèmes avec leur couple. Alors que
ça rapproche forcément.
Ça rapproche, alors que le père, c'est plutôt quelqu'un d'un peu plus vieux qui, a priori, a un petit peu plus de sagesse. Et qui...
ouais. Il a quelques arrière-pensées quand même.
Oui, mais pas trop, parce que j'ai remarqué que quelqu'un avait souligné cette idée qu'à un moment, quand il la soigne, parce qu'elle a été blessée, elle a pris un coup de couteau dans le ventre, elle dit, ah bah, il s'emmerde pas quand même, le vieux. Et
il mate un petit peu, ouais.
Oui, mais je crois que c'est un mélange d'affection.
Mais c'est pas très professionnel, ça, quand même, pour un médecin.
Non, mais il la connaît bien. C'est pas n'importe quel médecin. Parce que quand il lui dit, je vais appeler Georges, elle lui dit, non, surtout pas. Et on s'est dit, c'est qui ce gars-là qu'elle connaît et qu'elle veut surtout pas voir? Bah, parce qu'elle le connaît. Ils ont vécu ensemble. Faut penser à ça. C'est que ce qui me facilitait un peu la tâche, c'est que je pouvais fonctionner avec tout ce qui s'était passé avant. Donc on savait que moi, écrivain, j'avais pas de présentation à faire. Elle le connaît, il y a pas de raison que je dise « Eh, dites, le connaissait ». Non, ils se disent « Bonjour, je t'embrasse », tout ça, donc ça y est, on a réglé le problème. Mais j'aime bien le père. Le père, il est... parce qu'il a été dur avec sa femme aussi. Il s'est séparé d'avec sa femme, il lui a jamais pardonné. Donc il dit à son fils, ne fais pas la même imbécilité, quoi.
Voilà, et on se retrouve hein, à plusieurs reprises avec deux hommes qui parlent précisément des femmes, donc qu'il s'agisse de Georges ou de Luc, ou de Luc et de Marc. Et c'est l'occasion pour vous de toute une série de constatations plus ou moins désabusées, d'aphorismes aussi. Et ce qui ressort finalement, Philippe Jean, ce sont que bah, les femmes, elles sont quand même beaucoup plus fortes que les hommes.
Alors ça, c'est vrai, mais en même temps... Il faut comprendre que c'est vrai que quand ils vont discuter tous les deux, le voisin et Luc, ils vont dire du mal des femmes un petit peu quand
oui.
même. Mais j'ai l'impression qu'ils mentent tous les deux. C'est-à-dire qu'ils jouent un peu les costauds. Nos femmes nous ont quittés, mais c'est pas étonnant. Voilà. Ils jouent un peu les durs. Mais en fait, tous les deux sont complètement perdus parce qu'ils ont plus le pendant de leur vie passée. Et ils se sont perdus, donc ils jouent un peu les malabars. Mais ni l'un ni l'autre ne pensent réellement ce qu'ils sont en train de... C'est ça ce que je vous disais tout à l'heure dans les dialogues, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un moment, les personnages ne disent pas la vérité. Il faut trouver le moyen pour faire comprendre au lecteur ou au spectateur qu'il faut prendre ça avec des pincettes, qu'ils jouent un peu les durs.
Alors j'ai noté quelques phrases au passage, je voudrais que vous nous expliquiez justement s'il faut prendre au premier, au deuxième degré, si vous êtes en accord ou pas avec ces phrases. Luc, par exemple, il dit « On finit toujours par les rendre malheureuses, les femmes. Hein. C'est rare qu'on soit à la hauteur sur le long terme. »
Bah, vous savez, j'ai un camarade qui s'appelle Frédéric Becbédé qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « L'amour dure 3 ans ».
Voilà.
Donc eux, ça fait un moment qu'ils sont en... Donc ils ont peut-être... Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est que au bout d'un certain temps, si on ne met pas un peu plus que ce que nous donne la nature, on n'y arrive pas. Donc après, c'est une question de réflexion, d'affection, de compréhension de l'autre, de connaissance de l'autre, et tout ça qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Donc c'est normal qu'au départ, une rencontre, c'est souvent électrique, c'est sensuel, c'est sexuel, c'est tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas aller très très loin avec ça. Donc au bout d'un moment, il faut changer de braquet, parce que sinon on n'y arrive pas.
Ce n'est pas séduire une femme qui est difficile, c'est de la garder.
Ben ça, j'ai toujours cru, ça. Ça, c'est pas une invention. Oui, je crois que c'est très... Mais encore une fois, c'est difficile de garder une femme, mais c'est difficile de... Moi, ce qui m'étonne le plus dans ce monde, c'est que des gens, et la plupart, la majorité, on arrive à vivre ensemble. Et ça m'étonne. C'est pas normal. C'est évidemment qu'il y a... Regardez, aujourd'hui, enfin, il a fait à peu près beau. Il y a plein de femmes qui se promènent dans la rue. Elles sont avec des robes légères et tout. Elles sont belles à regarder. C'est un spectacle agréable. On va pas reprocher à la personne qui les regarde traverser le trottoir en face, surtout s'il est assez élégant pour ne pas siffler, pour ne pas faire le truc, mais qu'il éprouve une espèce d'émotion un peu esthétique. C'est beau, une femme, je trouve ça c'est une belle chose. Si on trouve qu'à ce niveau-là, je suis un super macho, bah, je suis désolé, bah oui, mais moi je trouve que les femmes, c'est des belles choses. Pas des choses, hein, là, c'est là où je vais me faire tuer. Des belles créatures. Voilà.
Bon, attention à vous. Hein.
Non,
bon,
non,
allez, une dernière petite phrase, cette fois-ci sur les hommes, Philippe Jean. En général, les hommes n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre, et les écrivains sont carrément sourds.
Bah, c'est un private joke, un peu, parce que je suis sourd d'une oreille. Donc, je suis à moitié sourdin, quand même. Mais c'est vrai. Je crois que les hommes, quand ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'on leur dit, ils n'entendent pas. Et les écrivains, c'est pire, parce que les écrivains, c'est le problème de vivre avec un écrivain que connaît bien Edith. Elle sait que c'est pas marrant d'écrire avec un écrivain, de vivre avec un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui, au moment où il se lève, on a l'impression que son boulot est fini, mais non, ça continue à tourner dans sa tête. Et souvent, je me suis dit, j'ai pu dire à ma femme, certaines fois, est-ce que tu préférerais pas que j'ai un vrai travail qui me prend de 8 heures du matin, au revoir ma chérie, je vais travailler, et je reviens le soir à 9 heures. Qu'est-ce qui a été très très dur pendant le confinement, c'est qu'ils ont été d'un seul coup plongés dans un truc où il fallait qu'ils vivent ensemble 24 heures sur 24. Et on a vu les horreurs que ça a pu générer. Mais c'est pas marrant de vivre avec un type qui est devant sa machine à écrire.
Je crois que tu dois réfléchir. Je crois que tu me dois bien ça. Tes regrets ne vont pas suffire. Tes caresses ne suffiront pas. Si tu es prête à revenir, peut-être que moi je ne le suis pas. Je garde un mauvais souvenir de ton bye-bye. À la prochaine fois, passer mon temps à te maudire. J'ai autre chose à faire que ça. Alors à toi de réfléchir, à toi de savoir. compris où tu vas. Tu sais que j'aime te voir sourire, mais je ne recommencerai pas, simplement pour te faire plaisir. Les adieux ne m'intéressent pas. Si c'est pour me proposer pire, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, oh, ne reviens pas. Ne prends pas cet air de martyr. J'aimerais pouvoir t'ouvrir les bras, mais je ne tiens pas à finir complètement fou à cause de toi. Ton envie ne va pas suffire, il va falloir trouver mieux que ça pour me convaincre et me séduire, pour me faire oublier tout ça. Si c'est pour me proposer pire, on ne revient pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens, reviens pas. Si tu n'arrives pas à choisir, non, ne reviens pas. Reste où tu es, fais-moi plaisir, fais-le pour nous, ne reviens pas.
Ne reviens pas dans VMDN sur RFI, la voix de Johnny Hallyday, évidemment, Johnny, auquel hommage a été rendu aujourd'hui à Paris, la voix de Johnny sur les paroles de...
Je sais pas.
Oh, bah, un certain Philippe Dijon, avec la complicité de Stéphane Escher aussi.
Ouais. Hein, sur, au départ, c'était sur une chanson titre, pour Stéphane Escher.
Ouais.
Je l'avais pas écrit pour Johnny en pensant à Johnny, moi j'avais écrit ça pour Stéphane.
Alors on voulait rendre hommage à Johnny, ouais, en faisant un petit clin d'œil, et en même temps quand on réécoute la chanson, on se dit mais c'est un peu la, c'est presque la bande-son du roman.
Ouais, c'est la morale de l'histoire, c'est ce qu'il lui dit, mais sauf qu'il accepte qu'il revienne, donc il prend des risques, mais il a raison, il prend des risques.
Écrire une chanson et écrire un roman, ce sont deux exercices complètement différents, Philippe Dijon.
Oui, pour la bonne raison, c'est que comme je suis pas chanteur et interprète, il y a forcément quand j'écris un texte, c'est pas moi qui vais le mettre en musique et c'est pas moi qui vais le chanter et éventuellement le défendre. Donc quand je suis tout seul en train d'écrire un roman, personne m'embête, personne n'est là autour de moi. C'est beaucoup plus court à écrire, mais en même temps, j'aime bien cette idée de d'immédiateté un petit peu. C'est une émotion qui passe, une chanson, c'est une attitude, c'est une manière de regarder le monde. Et, c'est à la fois... Mais un auteur que j'adore, par exemple, c'est Richard Brautigan. Et j'avais toujours dit, Richard Brautigan, c'est quelqu'un qui est capable de mettre une tragédie grecque dans un dé à coudre. Évidemment que c'est compliqué, hein, y a pas beaucoup de place. Mais ça veut dire que tout communique, tout est en puissance dedans. Et donc, écrire une chanson, il faut mettre beaucoup de choses comme ça. Mais pourtant, je dis à Stéphane, mais attends, tu sais, les paroles, c'est 20% de la chanson. 80%, c'est toi, ta musique, ton interprétation et tout ça. Il n'est pas d'accord, il va me donner un tout petit peu plus.
Bon, la littérature et la chanson accompagnent vraiment tous les jours de votre vie.
Oui, mais c'est en même temps, ça reste... Moi, je suis très un enfant qui est de la musique, j'adore ça, ça a été ma génération, là. Tous découvert les Beatles, les Rolling Stones, toute la vie changeait, la mode changeait, le cinéma changeait, tout changeait. Donc la musique, c'était vraiment un truc de reconnaissance.
La musique, la littérature, et puis le cinéma, les séries qu'on évoquait tout à l'heure. Elle a eu une bonne scène de film ou de série. Luc va dîner chez Marc, le voisin, et il croise à cette occasion la nouvelle copine de Marc, qui s'appelle Michel. Alors ils discutent un petit peu à l'écart, la soirée est un petit peu arrosée. La suite se trouve à la page 62.
Entre deux allers-retours à la cuisine, Michel vint s'enquérir de ce qu'il fabriquait à l'écart avec leur mine sombre. Marc se releva d'un bond pour lui montrer qu'il tenait encore bien sur ses deux jambes. Mais il s'avéra qu'il s'était surestimé car il retomba bientôt assis sur son siège, complètement lessivé. Luc croisa le regard de Michel. « Il ne supporte pas l'alcool, dit-elle. C'est terrible. » Marc regimba, protesta du contraire, mais elle l'ignora. « Luc, reprit-elle, si tu pouvais m'aider à le monter dans la chambre, ce serait gentil. » Marc continua de marmonner, mais il se laissa faire. L'opération se déroula sans difficulté particulière en dehors d'une embardée notable à l'étage, durant laquelle le trio vacilla. Chacun se raccrocha à l'autre, de sorte que Luc se trouva, sans crier gare, plaqué contre Michel. Ils échangèrent un sourire gêné et se séparèrent aussitôt, pareillement interloqués tous les deux. En silence, ils reprirent Marc en charge, lequel éructa à différentes reprises avant qu'il ne l'abandonne sur son lit. Il faisait bien nuit, mais elle tira les rideaux avant qu'il ne sorte. Elle referma la porte et resta quelques secondes immobile. Luc se tenait dans son dos. Une vague musique montait du jardin. Puis elle lâcha dans un souffle « Je dois retrouver les autres, je dois y aller ». Bien qu'elle ne le vît pas, il opina. Il la suivit des yeux pendant qu'elle empruntait l'escalier. Il n'était pas très emballé à l'idée de rester plus longtemps dans les parages. Il but un dernier verre et s'éclipsa. Il redescendit en direction de chez lui. Elle le rattrapa, à la fois pâle et nerveuse, et le tira par la manche. « Tu es parti si vite, Luc. Je voulais te remercier. » Alors, elle l'empoigna par le devant de sa chemise, l'attira vers elle, l'embrassa sur la bouche et repartit en courant. Il secoua la tête. À 20 ans, il se serait lancé à sa poursuite. Mais plus maintenant.
Voilà, mais plus maintenant. Et c'est vrai qu'on a évidemment les images tout de suite qui nous viennent à l'esprit hein, quand on lit Philippe Dujard. Vous-même, vous avez des images dans la tête quand vous écrivez. Vous imaginez une scène de série, là, par exemple ?
Qui est entourée de flou. Je vois le centre de l'image. Je vois les deux personnages et je sais que j'ai envie d'aller vers ça. La même manière que, par exemple, je suis capable de faire des choses du genre quand, vous savez, elle revient chez lui pour qu'il la cache. En fait, il est en train de travailler et il entend dans la cuisine un espèce de bruit comme ça, de glissement de caoutchouc ou je sais pas quoi. Il descend voir et c'est... elle est blessée, elle est par terre. L'idée de départ, c'était cette scène me paraît folle, mais je sais pas comment je vais réussir à l'intégrer au texte. Mais je me souvenais de Ford, le cinéaste, qui demandait un moment à son scénariste, écoute, on va faire un truc, là j'ai envie, c'était en train de tourner un western, j'ai envie que le corbillard traverse la rue principale avec les chevaux, avec les plumes et tout ça, et que les prostituées du bar sortent et que tout le monde regarde le truc. Et le scénariste, il dit, mais comment tu veux que je mette ça dans l'histoire, ça n'a rien à voir. Il dit, je m'en fous, je tourne. Et il l'a fait, et c'est génial. Et c'est ça, en même temps, de savoir, c'est dire, cette image-là me plaisait, de la femme qui était par terre en train de faire du surplace... Mais je savais pas comment le mettre là-dedans.
C'est-à-dire que vous tordez votre scénario, ouais. Vous tordez votre histoire pour, ça qu'après, pour
oui,
certaines scènes.
Il faut que je me demande comment elle a fait étant blessée pour revenir chez lui. Donc il faut que après je range tout ça. Mais je me dis Ford l'a fait. C'est pas parce que c'est Ford parce que je me prends pas pour Ford, mais quand même je me dis c'était gonflé et ça fonctionne. Et je suis tout le temps à la recherche des choses qui fonctionnent ouais. En littérature.
Non, mais dis-moi que je rêve, on se croirait dans un film. C'est ce que dit Georges dans le roman. C'est vrai qu'il y a énormément d'événements complètement inattendus, oui, oui. D'événements de péripéties, parfois vraiment, vraiment rocambolesques, on ne certain dit rien, liberté totale. C'est aussi ça la force de l'écrivain, Philippe Dujard.
On est les seuls maîtres à bord, hein. C'est nous qui commandons. Donc, oui,
les personnages ne commandent jamais.
Jusqu'à un certain point. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils sont dans une boîte, comme une boîte à chaussures. Alors, je regarde ce qu'ils font, ce qu'ils s'amusent, ils se tuent. Et il y en a un ou deux qui vont essayer de sortir de la boîte. Alors là, je dis rien, mais je commence à être attentif et je veux savoir où ils vont. S'ils vont dans un sens qui m'intéresse, je les suis encore. Mais si ça ne va pas, je les reprends par le col de leur chemise et je les remets dans la boîte.
Alors, vous les visualisez, les personnages, les décors, parce que les décors dans le roman, ils ne sont pas si précis que ça. Il y a quelques descriptions, mais... Pas tant que ça. Ça reste un petit peu flou quand même aussi.
C'est parce que c'est un cinéaste qui a vraiment ouvert les yeux. C'est Lars von Trier, qui, dans Dogville, dessine le décor sur le sol. C'est-à-dire que Nicole Kidman évolue dans un décor qui n'en est pas un. Simplement, par terre, à la craie, il y a écrit cuisine. À côté, il y a écrit salon. Après, il y a écrit chambre. Et elle bouge d'un truc à l'autre sur la même scène. Et ça fonctionne super bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai pas envie de connaître la couleur des murs. J'ai pas envie de savoir le frigo. Est-ce qu'il ronronne? Est-ce qu'il fait des glaçons? J'ai pas envie de savoir si la soupe, elle est chaude. Non, non, ça suffit. Mais laissez justement la place aux choses importantes. Mais par contre, sachez que ce que je vais laisser, ça sera important. Alors faites attention quand même. Il y a des gens qui disent que bon, Jean, c'est facile à lire tout ça, puis après ils disent on n'y comprend rien, tout ça. Souvent je dis mais peut-être vous avez pas eu une lecture un peu attentive. Je le dis ça, je vous l'ai montré, vous n'avez pas su le voir. Je demande aussi, oui, aux lecteurs d'avoir une lecture plus tranquille, à la fois plus légère, mais plus attentive.
Avec aussi la possibilité pour le lecteur de remplir les ellipses, d'imaginer des détails que vous ne lui donnez pas.
Il faut qu'il m'aide. Stevenson disait, faut être idiot pour penser qu'il faut être très réaliste. Il disait, aucun art ne peut concurrencer la réalité. Donc, faut trouver le truc pour dépasser ça. Sinon, ça sert à rien. Et je trouve que c'est vrai. Et je me dis, les quelques éléments que j'ai donnés, si le lecteur ou le spectateur sait s'en nourrir, évidemment qu'il m'aide, mais j'ai besoin de lui. C'est pas un truc de solitude totale, l'écriture. Il a besoin, je sais que ce que j'écris va être lu. Et même si je visualise pas et si j'ai aucune idée du public, mon public, je sais que j'ai besoin de lui.
Donc, il n'y a pas un roman Double Nelson. Il y a autant de romans que de lecteurs.
Ouais. Certainement, oui. Enfin, cela se rejoint un petit peu quand même. Mais... Non, mais vous avez raison, oui.
Merci beaucoup, Philippe Dian, d'être passé nous voir. Double Nelson, chez Flammarion, un livre que nos auditeurs vont pouvoir gagner en répondant à la question du jour, en message privé, bien sûr, à partir de la page Facebook de l'émission. La question est la suivante, alors il fallait vraiment être attentif. Comment se prénomme l'éditrice de Luc ? Allez, à vos claviers.
Quand ça nous pique, quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, la dilaé. On a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, la dilaé. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele, zingele, gengela, dame, ouais. Tu es très content et tu souris, c'est la vie. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas.
Maladie d'amour, le dernier single du chanteur béninois Santrinos Raphaël dans VMDN sur RFI. Et si la jungle colonisait la ville? Et si un vase devenait une fleur? Et s'il existait un pont entre le Bénin et le Japon? Eh bien, peut-être que ce pont passerait par Paris. Car la galerie Valois propose en ce moment une exposition pleine de poésie. Elle est signée du céramiste franco-béninois King Undekpinku. Notre reporter Fanny Blechner a pénétré dans son jardin.
Dans mon jardin, c'est le titre de cette exposition de King Undekpinku. Il y voit comme une invitation.
Le visiteur entre dans mon jardin secret, quelque part, et voit des œuvres, en fait, qui sont en fait des pièces qui se suffisent à elles-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin de plantes, de fleurs pour pouvoir vivre.
Ces œuvres, en effet, évoquent des formes organiques, botaniques, des sortes de curieuses plantes exotiques présentées sur des modules recouverts de gazon synthétique. L'une d'elles est émaillée d'un blanc laiteux et surmontée de détails qui pourraient évoquer une sorte de corail doré. Mais à y regarder de plus près, il s'agit d'une structure composite.
La partie haute en fait de la pièce, c'est en fait un gobelet qui est retourné à l'envers, qui est ensuite assemblé sur un corps de théière. Et sur ce corps en fait de théière, on a plusieurs becs de théière. Et la dernière partie, donc le pied de la pièce, en fait, c'est un bol retourné. Et tout ça recouvert d'un émail blanc et d'or.
Une façon donc de faire de la céramique à partir d'éléments de poterie, comprenez des éléments souvent de vaisselle.
Au moment où j'ai l'argile et j'ai commencé à travailler sur le tour, il y a comme des pensées dormantes en fait qui se sont réveillées en moi et ça a été une révélation et j'ai suivi ce chemin. Donc je continue toujours à réaliser des sculptures, mais toujours sur base de pièces utilitaires comme le bol, le gobelet ou le vase.
Cette formation, l'artiste trentenaire l'a suivie au Japon, à Bizen, une culture qu'il a d'abord découverte grâce à son attrait pour les jeux vidéo. Sur place, la façon dont les potiers travaillaient l'a aussi rapproché de ses origines.
Il considérait la matière, c'est un peu comme si vraiment il dialoguait avec. Et au moment de faire leur cuisson, il priait au dieu du feu pour pouvoir obtenir une bonne cuisson à la fin. Tout ça, ça m'a ramené en fait à la spiritualité vaudou du Bénin, qui est aussi basée sur les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, et qui vraiment aussi a cette approche de respect de la nature et de communication avec la nature.
Certaines de ces sculptures peuvent d'ailleurs comporter des détails que l'on retrouve dans des pièces rituelles en Afrique de l'Ouest, notamment des pics. C'est le cas de l'une d'elles, composée d'une partie supérieure d'un noir émaillé, comme des bulles, un champignon ou de petits œufs dont la brillance contraste avec la partie inférieure où se trouvent les pics dorés sur un bol inversé d'un rose pâle très mat.
L'émail, c'est un matériau qui est vraiment propre à la céramique et la peinture, et notamment la peinture que j'utilise, le spray, en fait, c'est quelque chose qui tient de la culture du graffiti. Et donc, en fait, pour moi, c'est intéressant de fusionner ces deux univers.
Kingun Dakpingu y voit ainsi des correspondances avec un style de musique, le hip-hop.
C'est l'un des seuls genres, voire le seul genre, en fait, qui accepte tout type de musique, que ce soit le jazz, le rock ou autre. J'ai un peu l'impression de faire la même chose, de sampler un peu tout, en fait, pour pouvoir créer quelque chose, un objet, une sculpture qui reflète le monde d'aujourd'hui et ma vision du monde.
Autre façon pour lui de rapprocher différents univers, le céramiste rapporte de ses voyages de petits morceaux d'argile qu'il mêle ensuite dans son travail. Un travail par ailleurs protéiforme car sont aussi présentés dans l'exposition 6 dessins au pastel, très colorés, reprenant les formes des sculptures.
C'est vraiment des croquis, mais ils sont faits d'après les œuvres présentes. Et pour moi, ce qui est important en fait, dans ces dessins, c'est vraiment l'impulsion et l'énergie en fait, spontanée. Le dessin, en fait, je l'appréhende par les formes de pièces de poterie.
Tout un travail artistique contemporain, donc, à partir d'un savoir-faire millénaire. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah!
Dans mon jardin, l'exposition de Kingun Dakpingu à découvrir donc à la Galerie Valois à Paris jusqu'au 2 octobre. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec la romancière Cécile Coulon qui publie Seul en sa demeure aux éditions de l'Iconoclaste. Et vous m'en direz des nouvelles. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.